L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5500 francs par jour seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
L'actualité est politique ce matin avec votre invité. Vous recevez en effet Philippe Blaise.
Philippe Blaise, premier vice-président de la province sud, président du MRC. Bonjour. Le mouvement des républicains calédoniens que vous présidez réunissait un séminaire ce week-end. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ?
Oui, on aime bien faire ça, nous, au MRC. On aime bien réunir les gens pour avoir un débat. Donc l'idée, c'est plutôt que d'avoir des réunions où l'élu pérore de faire un petit discours d'ouverture et poser un peu les questions d'actualité et puis demander aux gens ce qu'ils en pensent. Donc on a beaucoup fait le bilan de ce qui s'est passé depuis le 13 mai. Toutes ces conséquences en termes de rupture du vivre ensemble, en termes de dégradation, en termes d'exode, et quelles conclusions on doit en tirer politiquement, c'est-à-dire comment on doit envisager l'avenir. Donc très intéressant comme débat, et d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est un débat qui était ouvert, et c'était pas c'est organisé par nous, mais il y avait des gens de la société civile, il y avait des gens des voisins vigilants, il y avait des gens d'autres formations politiques.
Et alors, plus de 5 mois après les violences sexuelles, comment est-ce que vous analysez ce mouvement? Comment est-ce que vous l'expliquez aujourd'hui?
Quand on a fait les 3 journées au centre Tibaou sur le plan S2R du gouvernement, et des gens sont intervenus et on a eu João d'Almeida qui a dit « Si vous n'avez pas compris que c'est une révolte des pauvres contre les riches », lui, il n'a rien compris. Je pense qu'il n'a rien compris. Ce n'est pas du tout ça. C'est un coup d'État qui est organisé par la CCAT. On a des gens qui sont là à Bakou, dont Michael Forest, Omeira Neslin, Marlene Sakilia, Maria Ludovica Saliga. On sait que certains d'entre eux sont allés très loin dans les demandes qu'ils ont faites à l'Azerbaïdjan. On pense même qu'ils ont demandé des armes. Donc c'est très grave. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont décidé à un moment de sortir du processus de l'accord de main, de la voie démocratique, de la Pacific Way, comme disent les gens du Forum du Pacifique, pour essayer de prendre le pouvoir par les armes. Et c'est très grave parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils n'ont pas renoncé à ça. Donc c'est l'UC, CCAT, qu'ils ont simplement été tenus en échec par l'État, par les forces de l'ordre et par la justice, que je remercie de nous avoir protégés en tant que citoyens français. Donc, on est dans une situation un peu d'attentisme, instable, où on voit qu'on revient à la normale, mais qu'on a toujours cette menace de cette branche extrémiste du camp indépendantiste, et qu'à côté de ça, et c'est ce qu'on a vu au plan S2R, on a des gens qui n'ont pas du tout adhéré à leur démarche, qui se préoccupent, comme nous, que la Calédonie ne sombre pas dans le chaos. Et ça montre avec qui on doit travailler et de qui on doit se méfier.
C'est-à-dire que pour vous aujourd'hui, il y a ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Il y a pour faire simple, il y a le Palika et l'UC. On peut parler avec le Palika, mais avec l'UC, c'est compliqué.
Il y a un débat pour savoir avec qui on doit parler. Dans l'absolu, on doit parler avec tout le monde, mais on ne peut pas parler de la même façon avec des gens qui ont décidé de nous faire la guerre et qui n'y ont pas renoncé. Et avec des gens qui nous respectent, c'est-à-dire qui ne veulent pas, comme nous, que la Nouvelle-Calédonie devienne Haïti. Parce que c'est ça le risque. C'est, les conséquences du 13 mai, elles sont cataclysmiques. Ils ont cassé l'économie, ils ont brûlé 200 maisons, ils ont détruit 800 entreprises. On a plus d'un tiers de la main-d'œuvre du privé qui aujourd'hui est au chômage partiel. Nous sommes au bord du précipice. C'est pour ça qu'on demande l'aide de l'État, une aide exceptionnelle. Et il y a des gens qui s'en fichent, qui sont toujours dans la recherche du pouvoir, pour le pouvoir, quel que soit le prix à payer, y compris pour leur propre population, et d'autres personnes qui ne partagent pas nos convictions, qui sont des indépendantistes. Enfin, Louis Mapou, c'est un indépendantiste virulent, faut pas être naïf. Mais qui veulent que la Calédonie ressemble à un pays développé et pas à un pays du tiers-monde.
Parce que jeudi, lors du débat d'orientation budgétaire à la province sud, vous avez parlé de risque de tiers-mondisation de la Calédonie. Ça veut dire quoi concrètement?
Aujourd'hui, les perspectives budgétaires pour 2025 sont de moins 30%. C'est une quasi-faillite des finances publiques. Pas du fait de notre gestion, puisqu'on a très bien géré depuis qu'on a été élu. On a dégagé des capacités d'épargne qui nous ont permis d'investir. Mais tout simplement parce que l'arrêt de la machine économique, sa destruction, a entraîné un effondrement des recettes fiscales. Et vous savez, c'est ce qu'on a expliqué depuis 3 campagnes référendaires, en disant aux gens, faites attention, si jamais vous votez pour l'indépendance, il y aura un trou d'air économique. Et rappelez-vous, les indépendantistes disaient, mais non, ça va bien se passer, tout va continuer comme avant. Ils viennent de faire la démonstration que ça ne peut pas bien se passer. Quand on va à l'indépendance par la force, en faisant partir les gens. Et le résultat de ça, c'est qu'on pourra, sans doute, avec difficulté, payer les fonctionnaires, mais tout ce qu'on avait construit ensemble, depuis la provincialisation, depuis l'accord de Nouméa, c'est-à-dire toute cette machine de redistribution sociale, d'aide au logement, de bourse, de soutien au secteur associatif, l'environnement, la jeunesse, les sports, tout ça, aujourd'hui, nous n'avons plus le moindre franc pour pouvoir le financer. Et donc, c'est une punition collective que la CCAT vient d'infliger à l'ensemble de la Calédonie, pas qu'aux Blancs, à tous les Calédoniens, y compris la population mélanésienne, qui a besoin de ces aides sociales.
Vous parliez de Pacific Way, il y a une mission d'information du Forum des îles du Pacifique qui est actuellement sur le territoire, ils sont arrivés samedi. Vous pensez qu'ils vont mieux appréhender ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie en venant ici, en venant sur place ?
On a un réflexe un peu chauvin qui est de dire qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous, mais je crois que ce n'est pas le bon réflexe et on les a accueillis hier soir au Hilton avec le président Mapou, avec l'ensemble du gouvernement. Nous étions avec Naya Ouattéou, Gilles Brial. Et je crois que c'est une bonne chose finalement de les rencontrer pour faciliter la compréhension mutuelle. On n'est pas dupes, ce sont des pays indépendants, ils sont plutôt favorables à l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Mais je pense que c'est bien qu'ils viennent parce qu'ils vont se rendre compte de la violence qu'a engendré la CCAT, du fait que la CCAT a eu un comportement irresponsable. Ils ont commencé à avoir les destructions. Et on les voit, nous, cet après-midi, on va leur dire ce qui s'est passé exactement. Parce que, vous savez, le Forum du Pacifique, il s'appuie sur la philosophie du Pacific Way, c'est-à-dire on règle les problèmes par le dialogue, par le consensus, par la démocratie. Et on doit leur montrer que la CCAT a violé cette règle du Pacific Way, que c'est un mouvement, je pèse mes mots, c'est un mouvement fasciste, c'est un mouvement de nazis à peau noire. La CCAT, c'est un mouvement de nazis à peau noire. C'est ça la réalité. Et la CCAT essaye d'entraîner la Nouvelle-Calédonie dans un conflit ethnique. Or, ce n'est pas un conflit ethnique. La preuve, c'est que nous arrivons à travailler au gouvernement avec Louis Mapou, avec les membres du PALICA, avec Victor Tutugoro. Il y a des gens dans ce pays, au-delà de leur couleur de peau, au-delà de leurs convictions politiques, qui ne veulent pas que ce pays sombre dans le chaos, et nous en faisons partie.
Sur un plan politique, il y a eu cette semaine le début du processus pour le report des élections provinciales jusqu'à fin novembre 2025. Vous êtes satisfait de ce report et est-ce que vous pensez que ce délai va permettre effectivement de mettre les gens autour de la table et de trouver un accord global ?
D'abord, le report, il était indispensable parce que on rappelle qu'on sort de violence et que le feu couve sous la braise, que les élections législatives se sont tenues dans des conditions indignes. C'est-à-dire qu'on a eu des bureaux de vote où on a imposé le bulletin jaune. La démocratie, le libre choix des électeurs n'a pas été respecté. L'État n'a pas été en mesure de garantir la liberté du vote. Donc il va falloir qu'on aille aux élections si on nous garantit que les élections sont libres et que les gens peuvent librement choisir. Donc on a besoin de temps pour apaiser la situation. On a besoin de temps pour surtout sauver la Calédonie. Parce que se précipiter à des élections alors que le pays est en feu, que nous sommes au bord d'une catastrophe sociale, économique, humanitaire majeure, avec des gens qui aujourd'hui ont faim, c'est pas sérieux. À un moment, il faut calmer les choses, stabiliser le patient. Après, comme on fait le constat qu'on a des gens qui aujourd'hui nous ont déclaré la guerre et sont toujours dans cette logique du rapport de force et de la violence, je vois pas comment on peut arriver à discuter avec ces gens-là et en sortir avec un accord global. Il faut être sérieux, on n'est pas en 88, on n'est pas en 98, nous sommes en 2024 et nous sortons d'une insurrection armée avec l'aide d'une puissance étrangère. Donc, il ne faut pas se tromper. Et ça, c'est un message que j'envoie à mes amis du camp loyaliste. N'essayons pas à tout prix de négocier un accord pour un accord. C'est-à-dire que le problème de la Calédonie aujourd'hui, c'est pas de trouver une espèce de... C'est pas le concours Lépine du plus beau statut institutionnel. Hein. C'est clairement ce que nous ont dit les gens lors du séminaire de samedi matin. C'est la solution politique. La solution politique, c'est plus large que ça. La solution politique, c'est d'abord comment on assure la paix, l'ordre. Et là, on a besoin de la France, très clairement. Comment on assure que le processus démocratique redevient la norme avec la liberté de vote des gens, qu'on est dans le dialogue. Comment on assure que les prochaines élections se passent bien ? Peut-être faudra-t-il être un peu moins ambitieux. On va peut-être pas tout résoudre d'ici les prochaines élections. Mais en tout cas, trouver au minimum un accord sur la tenue de ces élections et notamment la question du corps électoral. Il va falloir poser ça parce que l'État l'a répété, nous le répétons, il n'y a plus aujourd'hui de justification politique, morale, juridique au fait qu'on exclue ad vitam aeternam des gens de la vie politique locale.
Vous croyez possible aujourd'hui un accord sur la modification du corps électoral provincial ?
Je ne vois pas comment les élections futures pourraient être légitimes sans qu'on ait revu le corps électoral. Je ne vois pas. Ça posera un problème de fond et il faut faire attention parce que la violence n'est pas de notre côté. Nous, on a subi, on a été victimes, on s'est défendu, on a résisté avec les voisins vigilants, on a tenu et je salue le courage des Calédoniens qui ont tenu face à ceux qui ont perpétré ces crimes. Mais on ne va pas continuer, nous les Calédoniens, à payer nos impôts, à donner de l'argent, si on est dans un pays qui n'est pas un pays démocratique. À un moment, on va se poser des questions. C'est-à-dire que si on nous martyrise, si on nous viole, si on nous prive de nos droits fondamentaux, on s'organisera pour que là où on peut le faire, nous vivions en démocratie, si la Nouvelle-Calédonie, dans son ensemble, n'est plus une démocratie.
– Alors s'il y a une reprise des discussions politiques, comme chacun semble le vouloir et chacun l'appelle de ses voeux aujourd'hui, quels sont les thèmes qu'il faut mettre sur la table? Vous faisiez un petit peu allusion, mais par exemple, est-ce qu'on reparle du droit à l'autodétermination après les trois référendums, ou est-ce qu'on réoriente complètement les discussions sur l'avenir ?–
Bon, le droit à l'autodétermination, d'abord, il est imprescriptible. C'est une règle de... Du droit de l'homme, c'est qu'on ne peut pas l'interdire. Donc nous n'avons jamais, nous, considéré que c'était un sujet tabou et il faut l'organiser. Il faut simplement que ça soit organisé de façon à ce que ça n'introduise pas une instabilité. Et ça aussi, c'est une chose qui a été dite dans le séminaire. Les gens ne veulent plus un accord qui renvoie à 30, 40 ans les problèmes en faisant peser sur les épaules de nos enfants, nos petits-enfants, des choses qu'on n'aurait pas réglées. Donc il faut permettre, et ça a été proposé à plusieurs reprises déjà, dans le plan loyaliste, qu'on civilise ce droit à l'autodétermination avec des seuils, avec des facteurs déclenchants, pour qu'il soit possible, si une majorité de gens ou d'élus le souhaitent, mais pas que ce soit une épée de Damoclès comme on a eu depuis 88 avec des rendez-vous permanents qui, en fait, nous ont interdit de nous projeter dans le futur. Un pays ne peut pas se développer s'il ne peut pas sereinement se projeter dans le futur. Alors après, sur la reprise des discussions, on part de loin. La CCAT a enflammé la population mélanésienne, a banalisé le racisme. Moi, ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des gosses qui disent « à mort les Blancs ». Vous vous rendez compte, c'est le contraire de tout ce qu'on a essayé de construire en matière de vivre ensemble depuis des décennies. Et la CCAT porte une responsabilité très lourde. La CCAT s'est conduite de façon totalement irresponsable. Et donc il est urgent aujourd'hui de rétablir le respect entre toutes les communautés de la Nouvelle-Calédonie. Ça passe par réapprendre à travailler ensemble, réapprendre à se parler. Et il faut le faire, il faut commencer par le sauvetage économique et social de la Nouvelle-Calédonie. C'est ça qui va nous permettre de dépasser nos antagonismes politiques et de travailler pour ce qui nous unit, c'est-à-dire une forme de patriotisme économique et social. Et on verra bien à ce moment-là qui sont les gens qui méritent qu'on discute avec eux parce qu'ils ont cet esprit de responsabilité et qui sont les gens qui ne méritent pas qu'on discute avec eux.
– Vous parlez de la CCAT, l'UC doit prendre ses distances ou c'est la même chose ?–
Mais l'UC et la CCAT, c'est la même chose. Le problème, il est là, c'est-à-dire que dans l'UC, vous avez quelques individus qui effectivement… sont modérés, se comportent bien. Bon, il y a Pierre Chanel Tugoureau qui est allé avec la commission à Paris, la commission transpartisane, mais c'est quoi le pouvoir de Pierre Chanel Tugoureau? Je l'insulte pas, je dis simplement c'est quoi son pouvoir? C'est quoi le pouvoir de Roquemitant sur sa tribu? Il n'en a pas. Donc le problème de l'UC, c'est qu'ils n'ont pas de parole. Et ça, je l'ai dit au ministre de l'Outre-mer. L'histoire nous a montré que quand l'UC prend un engagement à Paris, il n'est pas respecté à Paris. Roquemitant accepte d'inscrire automatiquement les natifs qui ont plus de 3 ans de présence, dans les commissions électorales, Madeleine Ounou, M. Régnier et l'infâme Mathias Chauchat, excusez-moi de dire ce que j'en pense, vont à l'encontre de ces consignes. Le Palika, lui, il a une parole. Quand il dit oui à Paris, quand il accepte, à Nouméa, c'est appliqué.
Vous parliez de François-Noël Buffet qui était là la semaine dernière. On attend maintenant prochainement la venue des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet. Qu'est-ce que vous attendez de ces missions qui succèdent en Nouvelle-Calédonie ? Ils peuvent participer à quoi ? Débloquer, apaiser la situation, créer les conditions du dialogue ? Ça semble être la volonté de part et d'autre.
Des fois, on se demande à quoi ça sert. Mais non, mais plus c'est toujours important que les gens viennent se rendre compte de la réalité en Calédonie, parce que malheureusement, il y a une armée du mensonge qui a fait croire qu'en Calédonie, c'était un soulèvement social, que le FNKS était victime de mauvais traitements de la part des loyalistes. C'est toujours bien qu'il y ait des gens, que ce soit le FIP, que ce soit les parlementaires, les présidents d'assemblées de métropole, qui viennent voir la réalité, qui viennent voir les entreprises brûlées, qui viennent voir les écoles et les églises qui ont été brûlées, qui se rendent compte qu'on a en face de nous des gens qui sont dans l'autodestruction. Après, on aime bien aussi quand ils viennent amener des solutions pour régler les problèmes socio-économiques. Mais je crois que c'est à nous, Calédoniens, de trouver les solutions. Je pense qu'on a peut-être un peu trop compté sur l'État. Et l'État, il faut qu'il reste neutre, il faut qu'il soit garant du processus, de la démocratie. Mais je crois que c'est les leçons qu'on tire du passé, c'est que c'est très important que nous-mêmes, nous menions les discussions et qu'on montre qu'on est dans le respect les uns des autres, qu'on est des grandes personnes, qu'on est capable d'assumer notre propre autonomie. Et l'État doit nous aider à mettre ça en œuvre.
Philippe Blaise, premier vice-président de la province sud, président du MRC, merci d'accepter notre invitation.
Merci Elisabeth.